Bonjour à toutes et à tous. Je vais revenir aujourd'hui sur cette thématique qui est celle des deux manières d'occuper le sol. Alors, je vous le rappelle, il s'agit d'une part de la modification du territoire d'une manière importante qui est symbolisée dans les récits mythiques par le laboureur qui incise la terre, le sol. Et puis, une autre manière qui est beaucoup plus légère, qui ne fait que se superposer sur le sol et sur sa géographie, sa géologie, sa forme, et que l'on peut appeler d'une manière symbolique celle de l'éleveur. Et ceci nous renvoie aux récits mythiques de la Bible avec Caïn et Abel, dans les rôles respectifs. Donc, tout le monde sait que cette histoire est une histoire violente, et cette violence, on va la retrouver dans les autres mythes fondateurs des civilisations, des religions, et notamment les mythes grecs, où on va retrouver aussi cette dualité entre la ville qui va être créée à partir du soc de la charrue et qui découpe le territoire en morceaux égaux et d'une manière orthogonale, et puis les formes effectivement qui vont être celles beaucoup plus souples, mobiles aussi, des tribus, des éleveurs, et c'est, on peut dire, le Russie que l'on va retrouver dans toutes les civilisations. Alors, ces récits sont empreints de violence et il s'agit d'une manière de pacifier les conflits entre les populations, entre les groupes humains, et ce problème de la violence, donc, n'est pas un problème uniquement contemporain, c'est un problème que l'on retrouve dans toutes les époques. Alors, je vais faire quelques rappels par rapport à ces récits, mais par rapport à l'histoire aussi, pour évidemment parler de notre société d'aujourd'hui, des problèmes contemporains, et justement ce problème de la violence sur les territoires et de la violence sociale, puisque ça me semble quelque chose qui est imbriqué fondamentalement avec la forme urbaine, sans que l'on puisse trouver des relations aussi, on peut dire, matérialisées et directes. Et c'est justement ça qui est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, quand je vous parlais du récit fondateur des sociétés, il y avait ce que je vous avais expliqué une autre fois dans le banquet de la fondation de la ville de Bréa, un découpage de la ville en morceaux égaux qui correspondait à un partage qui était donné à des tribus qui étaient de ce fait rétribué par cette division du sol que l'on pouvait quantifier et qualifier. Donc toute l'histoire de l'humanité passe par ce schéma entre une forme quantifiée et qualifiée qui va aussi produire les plans, qui va produire l'écriture, puisqu'en fait il faut enregistrer la propriété qui sera donnée à des personnes qui étaient des groupes humains qui étaient dispersés avant, et de ce fait ils se réunissaient avec toujours ce problème de la violence, parce que quand les hommes décident justement de se regrouper dans un même endroit, c'était pour conjurer les luttes, les guerres, on peut dire ce qui pouvait opposer des groupes diffus dans les territoires et qui se regroupaient dans un ensemble qui était donc la forme urbaine dessinée, ce que l'on appelle la ville. Alors, une grande naïveté serait de croire que la ville est, de par elle-même, civilisation. Alors, ce qu'on apprend dans les écoles d'architecture, c'est souvent des lieux communs, comme de dire civilisation, ça vient de civis, de la ville, dont tout ce qui est urbain est civilisé, ce qui ne l'est pas, n'est pas civilisé. Alors ça, c'est un discours corporatiste que l'on retrouve chez les architectes, et effectivement que je ne partage pas, parce que je pense que les civilisations qui sont sur des formes, justement, non imbriquées dans le sol, même si elles font moins travailler la profession des architectes, sont des civilisations différentes, souvent des civilisations orales, des civilisations qui peuvent être mobiles beaucoup plus que les civilisations qui sont inscrites dans le sol, mais ce n'est pas la seule caractéristique. Donc, on a donc cette opposition qui est historique, et comme je vous ai précédemment dit, il ne s'agit pas d'une succession historique, comme on voudrait le croire dans notre, on peut dire, dans notre Occident, construit justement sur cette civilisation des villes, mais il s'agit d'alternance, et toutes les civilisations ont subi cela, et notre civilisation n'échappe pas à cela. Et c'est certainement cela qui est le conflit aujourd'hui, conflit qui est entre, par exemple, les centres-villes et les zones dites périphériques, ou alors les métropoles et la périphérie. En fait, on oppose des dualités toujours, sans d'ailleurs essayer de comprendre, puisque bien souvent il s'agit d'alterner le bien et le mal. Donc dans certains récits, la ville dense ne serait que, comme je vous l'avais dit à l'instant, civilisation, et on opposerait une société qui serait moins structurée. C'était l'opposition qui existe depuis la nuit des temps entre les villes et les campagnes, et qui va se retrouver dans toutes les civilisations. Alors, cette opposition, à mon sens, elle est permanente, elle est inhérente à la nature humaine, puisque elle passe à travers nous. Nous avons la même pulsion de modification des territoires et d'ancrage dans le sol, comme nous avons aussi la même pulsion de voyager. Donc, je vous parlais de l'oxymore la semaine dernière, l'oxymore qui est cette opposition à l'intérieur d'une même locution. Et la ville ne peut pas être à la fois, en même temps, mobile et immobile. On ne peut pas être à la fois campagne et ville. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette illusion d'une utopie d'un en même temps, où on essaie à la fois de dire il ne faut pas voyager en avion ou en voiture ou en train, réduire nos transports, et puis à la fois de dire le monde appartient à tout le monde, les frontières sont ouvertes, et ce sont les mêmes personnes qui disent cela en même temps. Donc moi, je ne vais pas me positionner en position morale par rapport à faut-il bouger ou pas bouger. La question n'est pas là. La question, c'est que il faut être cohérent. Et la solution, elle est simple, c'est que on a au cœur, encore une fois, de chacun de nous, ces désirs qui sont à la fois de mobilité et aussi de stabilité et de permanence. Et on peut le voir dans nos modes de vie, et on peut le voir dans les modes de vie de toutes les sociétés de tous les temps. Alors, effectivement, il y a dans cette opposition entre les deux types de sociétés. Il y en a une qui domine, mais elle domine par rapport à l'autre qui est toujours d'une manière non visible. C'est-à-dire que les sociétés mobiles ont toujours ce besoin de structuration qui n'est pas visible, qui va être fait d'une série de règles de loi ou de lecture de quelque chose qui est lié au sol mais qui n'est pas compréhensible par l'extérieur, les règles internes, dirons-nous. Et puis, il y a un autre type de société qui va être justement celle qui est découpée sur le sol, où justement les règles vont être visibles, mais il y a un inconscient et des regroupements à l'intérieur de ce, on peut dire, de ce damier fondateur, dans lequel il y a des groupes humains qui se, qui ne, dont la, le lien ne sont pas visibles, puisqu'ils ne sont pas traduits dans du bâti, ce n'est pas dessiné sur le sol, mais il y a ces regroupements qui fait que, par exemple, prenons Paris, par exemple, il y a une partie de l'Ouest qui va être une partie riche et une partie historique qui sera une partie qui est plus ouvrière aujourd'hui, qui reçoit des migrants. Donc cette opposition entre deux zones, on va la retrouver à peu près dans de nombreuses villes, mais ça ne se lit pas d'une manière, on peut dire, dans l'architecture et dans l'urbanisme. C'est-à-dire les avenues sont assez semblables et on ne le voit que parce que la population ou des éléments secondaires tels que les boutiques ou les voitures ou la richesse apparente d'un quartier ou d'un autre ou la couleur des gens va faire qu'on va comprendre qu'on n'est pas dans les mêmes types de sociétés, mais l'apparence sera la même. Donc, nous allons comprendre justement que ces deux types coexistent d'une manière visible et invisible, et que c'est cette forme, cette tension permanente, cette tension permanente de chaque type de société pour le modèle, pour l'autre modèle. C'est-à-dire que, il y a une tension permanente et la gestion de cette tension permanente, on peut dire, c'est la politique qui la règle. Et ça, c'est le propre de l'humain. Les abeilles, dans leur construction de ruches, ou les fourmis, ou les animaux, ne désirent pas autre chose que ce qu'ils ont. Et donc, la différence de l'humain et des sociétés humaines, c'est justement de vouloir toujours le désir d'être autre et cette tension permanente qu'ont tous les groupes sociaux et qui est la source de conflits, mais aussi la source de créativité, puisqu'en fait, tout ce qui est fait par l'homme, c'est toujours des constructions, des inventions au niveau technique, au niveau artistique, qui sont différents de ceux qu'il y a. Donc, nous sommes effectivement là au cœur du problème. Donc, on va marquer une pause musicale, nous allons reprendre ceci. prenons sur ce thème de la violence, mais on va parler effectivement de la violence dans nos sociétés contemporaines. Et ce qui nous touche de près, c'est la violence dans notre espace de vie, à la fois celui des grandes villes, des villes moyennes, et aussi de tout ce qui est dans cet entre-deux qui constitue la France. Donc, j'étais en train de vous dire que le phénomène n'est pas nouveau, puisqu'il est même, on peut dire, consubstantiel à la gestion des territoires. Simplement, ça ne suffit pas de dire que cette violence a toujours existé. Et il s'agit de trouver le juste équilibre, et cet équilibre de pacification de l'espace, des groupes sociaux, c'est le rôle de la politique, comme je vous disais, et c'est quelque chose qui doit être recherché. Donc aujourd'hui, nous avons ce discours qui apparaît de plus en plus dans le discours politique, et nous allons parler de cela. Alors tout d'abord, il faut tordre le cou à certaines naïvetés, notamment ce qui était dit sur la ville, comme je vous disais, qui serait porteur de civilisation, et la densité serait de ce fait une qualité. Alors on va trouver des excuses ou des raisons écologiques qui personnellement ne me semblent pas très sérieuses, puisqu'il s'agit de choix de société, il s'agit de choix personnels de savoir où les gens veulent habiter. Donc cette question de la densité, ce n'est pas une question morale, ce n'est pas le bien et le mal. Alors, effectivement, on a tendance toujours à se positionner en caricaturant l'autre. Dans le cas présent, le discours que l'on entendait, c'était que la ville, c'était la convivialité, donc le modèle de la ville ancienne, dont ça c'était le mythe dont j'ai parlé longuement, de la ville telle qu'elle avait été en 68 proposée comme modèle, c'était le modèle de la diversité sociale, où il y avait effectivement le mot mixité qui apparaît, non pas comme le mélange entre hommes et femmes, mais le mélange entre classes sociales et supposé être une vision harmonieuse. Bon, bien sûr, ça n'a jamais existé, et cela est un leurre. On l'oppose de ce fait aux zones périurbaines, qui seraient celles de périphérie de la banlieue, où on aurait la vie dans les lotissements, où les gens seraient avec des portails, des chiens de garde, et sans aucune convivialité. En fait, c'est une imbécilité, puisque c'est exactement le contraire qui se passe sur certains plans. C'est-à-dire que la ville, effectivement, c'est l'opportunité de rencontrer des gens différents, beaucoup plus que dans une société qui serait sur des territoires où les gens seraient semblables. Mais tout cela, évidemment, est un leurre, puisque on travaille, on a des lieux d'éducation où il y a ce mélange, et la place où on habite n'est en fait pas forcément la première des raisons de la sociabilité. D'autre part, je pense qu'il y a de ce côté-là une inversion, puisque ce qui est recherché dans la grande ville, par exemple ce qu'on appelait l'exode rural qui s'est passé en France après la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons sociales également, où il y avait dans la vie des villages une certaine, on peut dire, étouffement dans les manières de vivre, et la liberté était donnée par la grande ville, qui permettait d'avoir dans l'anonymat les choix de vie que l'on pouvait avoir. On sait par exemple, dans le cinéma italien de l'après-guerre aussi, on a ce phénomène qui est encore plus, on peut dire, amplifié, où les gens du Sud, dans des sociétés patriarcales très étouffantes, vont dans les grandes villes du Nord, à la fois pour trouver du travail, mais aussi pour trouver de la liberté. Donc, C'est justement un anonymat qui est cherché dans la grande ville, et on peut dire que, au contraire, les sociétés, on peut dire rurales, sont plus protectrices. Alors, ça peut être une protection qui vise à l'étouffement, mais en fait, il y a dans les réseaux de la ruralité beaucoup plus d'entraide que l'on va trouver dans la ville. Un exemple. On regarde, on le voit dans les journaux régulièrement qu'il y a des personnes qui vivent seules et qui vont mourir et puis qu'on découvre leur corps bien peu après parce qu'ils vivent dans l'anonymat. Une chose qui est évidemment beaucoup plus difficile à imaginer dans un monde de ruralité. Voilà, donc par rapport à cela, encore une fois, il ne s'agit pas de mettre des préceptes moraux de bien et de mal, mais de montrer qu'il s'agit de deux formes opposées. Alors, revenons ce problème de la violence et le problème des banlieues, qui sont donc des secteurs de population. Qui, au gré des décennies, a vu remplacer une population qui était, on peut dire, autochtone, ce qui s'est passé dans cette forme d'exode rural dont je parlais à l'instant. Et là aussi, il y a un récit qui est assez faux. Parce que j'entendais dire d'une manière totalement fausse que les grands ensembles ont été construits pour les travailleurs de l'immigration. Donc en fait, il faut dire que ça c'est la fin de la guerre d'Algérie, les accords d'Évian en 1962. Et non, ce n'est pas à ce moment-là qu'on a créé les grands ensembles. Les grands ensembles, c'est la reconstruction à la fin des années 40 et des années 50 pour les populations françaises. Donc on s'est trouvé à la fois, il y avait des démolitions qui avaient été dues au bombardement et à la guerre, mais il y avait surtout en France, aggravé en plus par les années de guerre, un manque d'hygiène dans les logements et aussi ce phénomène d'exode rural qui faisait qu'il y avait des emplois industriels aussi et aussi dans les bureaux et l'agriculture française se mécanisant avait beaucoup moins besoin de main-d'œuvre, donc c'est un phénomène que l'on a vu. Donc ce n'est pas du tout ce qui est entendu aujourd'hui et totalement faux de dire qu'on a créé des grands ensembles rapidement de mauvaise qualité pour des travailleurs immigrés. Les grands ensembles étaient justement de grande qualité par rapport à la situation du logement français de cette période. En plus, la France était, on peut dire, en retard par rapport à d'autres pays, sans parler des États-Unis sur un plan du logement, mais enfin les pays nordiques notamment, où il y avait des conditions d'hygiène qui étaient bien meilleures que la France qui était très en retard. Donc, ce récit que l'on entend est un récit qui est faux, et on a eu simplement, on peut dire, phénomène dans les années 60-70, où ces populations qui avaient eu les premiers logements modernes dont ils étaient éminemment satisfaits, puis il y a eu aussi le besoin avec l'enrichissement du mode de vie de la population française de vouloir habiter dans des maisons individuelles, et on a eu ce phénomène des lotissements de la maison individuelle qui s'est non seulement autour des grandes villes, mais qui s'est passé aussi dans les villages, dans les villes moyennes, et qui est un phénomène assez général. Donc il ne s'agit pas, encore une fois, de porter un jugement moral de bien ou de mal de ce type d'habitat, mais c'est la France telle qu'elle a été constituée. Donc, il se trouve aujourd'hui, effectivement, des populations qui arrivent d'autres pays et qui sont d'une immigration récente, parce qu'on peut dire aussi que cette immigration des années 60 n'habite plus, pour une grande partie, les grands ensembles. Ils ont remplacé les Français, mais eux aussi ont suivi le même mouvement, on peut dire, d'embourgeoisement de la classe moyenne. Donc aujourd'hui, il y a une problématique entre ces quartiers qui sont habités par des populations nouvelles et, on peut dire, non assimilées, avec des tensions et de la violence. Donc c'est un problème dont on parle. Bon, mon propos, évidemment, n'est pas de parler de l'immigration en tant que telle, mais du phénomène et de la manière de lui trouver un remède. Alors, on a parlé beaucoup de mixité. Là aussi, c'est une manière de voir les choses, c'est-à-dire en disant on va mélanger les populations. Alors, il est évident que le mélange ne peut être fait que dans un sens. C'est-à-dire on ne peut pas demander aux classes moyennes et aux classes moyennes supérieures ou très supérieures d'habiter dans ces quartiers pour créer de la mixité. Donc c'est le phénomène qui serait inverse, mais qui est évidemment extrêmement compliqué, parce qu'on ne voit pas très bien, si ce n'est que ponctuellement, on va avoir des opérations de logements sociaux qui vont être faites dans des quartiers qui sont déjà bâtis. Ça ne se passe pas forcément bien, et les expériences dans ce sens ne sont pas très positives, puisque je pense que cette mixité qui apparaît comme une solution est irréalisable sur un plan social, économique, et ça supposerait la démolition de ces grands ensembles, puisqu'en fait, il y a toujours le remplacement par de nouvelles populations. Donc, le problème qui revient à l'urbanisme est un problème beaucoup plus de gestion du territoire et d'arriver à unifier les territoires avec des règles communes. Alors, prenons l'exemple de Haussmann et la manière dont Paris a été dessiné. Eh bien, il y avait effectivement des quartiers où les mélanges ne se faisaient pas. Dans les romans de Balzac, les gens restent à quelques rues de là où ils habitent. Donc, il n'y avait pas des traversées, et c'est Haussmann qui a créé ces traversées de Paris. Paris est une ville qui était impossible à traverser avant les travaux d'Haussmann. Donc, c'est un problème qui est posé dans des termes aujourd'hui, évidemment, assez catastrophiques. On dit les pompiers ne peuvent pas y aller, les policiers ne peuvent pas y aller. On pose cela dans des problèmes, d'une manière négative, c'est-à-dire de non-accès. Donc, la question, je vais la développer la fois d'après, c'est effectivement de créer des continuités. Et il ne s'agit pas uniquement d'amener des bulldozers et de démolir des quartiers entiers, mais de se servir de l'exemple d'Haussmann pour voir la manière dont Haussmann a résolu le problème, du moins en partie. Alors, il ne s'agit pas de voir tout rose dans ce qui a été fait, mais on peut dire que Haussmann avait commencé par la démolition totale du quartier, ce qui est d'ailleurs ce qui a été la politique de la ville. On a démoli des tours et démoli des bâtiments, et on n'a pas pris la leçon de l'histoire. Et l'exemple de la cité de l'île de la Cité, autour de Notre-Dame de Paris, on a fait une démolition d'un quartier gothique qui était pittoresque et très beau. On l'a remplacé par des immeubles sans grâce. Et Haussmann a bien vu qu'il enlevait le pittoresque et en fait il le remplissait par quelque chose qui était brutal et sans grand intérêt. Donc il a trouvé une solution mixte qui préservait à la fois le Paris ancien et le Paris nouveau. Et c'est ce que je développerai la semaine prochaine sur peut-on appliquer la manière de Haussmann au XIXe siècle à notre société d'aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.